France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Qui voit Saint voit sa fin. Les familiers de l'île bretonne de Saint, baignés par les eaux piégeuses de la mer d'Iroise, connaissent ce proverbe. Mais c'est bien d'un début dont il sera question aujourd'hui. Le début sur l'île de Saint de recherches archéologiques passionnantes. Car c'est dans ces eaux agitées qu'on a découvert un mur de 120 mètres de long sous 9 mètres d'eau, accompagné d'autres structures linéaires. Construites il y a 7000 ans, ces structures soulèvent de nombreuses questions. Quelle peut être la fonction de ces murailles? Que sait-on des sociétés littorales qui ont pu les bâtir? Comment cette découverte monumentale nous éclaire-t-elle sur la période de transition entre mésolithique et néolithique? Enfin, ces murs engloutis ont-ils un quelconque lien avec la légende bretonne de la ville d'Is, cette cité mythique avalée par l'océan? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en ligne avec Yves Fouquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, ancien chercheur à l'IFREMER, responsable scientifique des opérations de terrain qui ont eu lieu dans le cadre de la découverte dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes également en ligne avec Pierre Stéphan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes géomorphologue, chargé de recherche CNRS à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, l'UBO. Et jamais 203, nous sommes enfin en ligne avec Ivan Payet. Bonjour. Ivan Payet, bonjour. On vous retrouve dans un instant. Vous êtes archéologue, spécialiste des sociétés littorales, professeur également à l'UBO. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer cette discussion avec vous, Yves Fouquet, puisque vous êtes celui par lequel cette découverte a commencé. Pour réaliser cette découverte, vous êtes parti de l'observation de cartes un peu particulières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel type de cartes vous avez observées et grâce à quelle méthode d'imagerie elles ont été réalisées ?
Donc, les découvertes sont faites à partir de cartes LIDAR, c'est-à-dire c'est fait à partir d'un faisceau laser transporté par un avion. Donc, ça se fait par avion qui vole à basse altitude. Ce faisceau, avec sa fréquence, si l'eau est suffisamment transparente, permet de dresser des cartes jusqu'à une profondeur d'une trentaine de mètres pour la zone de l'île de Saint. Et surtout avec des résolutions de l'ordre de 1 mètre, ce qui change quand même beaucoup par rapport aux cartes marines qui, elles, sont faites pour voir un peu les récifs en surface, mais ne voient pas le fond, ce qui est un petit peu frustrant pour le géologue. Donc il y a une dizaine d'années, ces cartes LIDAR ont été disponibles et j'ai tout de suite commencé à regarder un petit peu et à reprendre des cartes géologiques, puisque pour la première fois, on avait une vision continue de cette chaussée à l'ouest de l'île de Saint, qui fait quand même une vingtaine de kilomètres de long.
Vous parlez donc de cette chaussée de l'île de Saint, sur ces cartes que vous observez en tant que géologue. Et puis, voilà, vous étiez géologue pour l'IFREMER, vous avez l'habitude de l'étude de ces fonds marins. Là, quelles anomalies vous observez quand vous reprenez ces cartes LIDAR qui donnent une image des reliefs sous la surface ?
Alors, l'avantage de ces cartes, c'est qu'on voit le détail, en particulier tout ce qui est le réseau de failles. Le réseau de failles se traduit par des petites vallées, hein, quand cette région était émergée dans les périodes un peu plus froides. Et le long de ces vallées qui sont en creux, puisqu'une faille traduit les zones de fragilité des roches, une pente régulière sur ces petites vallées, c'est régulier depuis la surface.
Alors votre téléphone vibre, je crois, Monsieur Fouquet.
Appelé un barrage de cette région. Et ce barrage.
Yves Fouquet, je vous interromps juste un instant, mais je crois qu'il se passe un petit quelque chose.
Barrage, l'extrémité de la vallée.
Yves Fouquet, je vous interromps un instant, il me semble que votre téléphone vibre, alors peut-être que vous pouvez le mettre sur une surface qui ne vibrera pas, ou en tout cas qui ne perturbera pas votre propos, puisque du coup on n'a quasiment rien entendu. Je vais vous reposer cette petite question, mais voilà, quel barrage vous avez observé, quelles anomalies vous avez observées, vous, sur ces cartes-là ?
Donc le haut de plusieurs vallées était barré par des structures linéaires en relief de quelques mètres de haut, une centaine de mètres de long, et ces structures, du point de vue géologique, étaient anormales parce qu'une vallée, normalement, l'eau, les ruisseaux, elles enlèvent la matière et n'en rajoutent pas. Donc la linéarité et le caractère de barrage nous a intrigués.
C'est là que vous avez dû faire appel, du coup, à une société, la Société d'archéologie et de mémoire maritime, des plongeurs qui ont été courageux, puisqu'il faut aller plonger dans cette mer d'Iroise qui a des conditions un peu particulières. On peut rappeler un peu les conditions techniques qui sont celles des plongeurs quand il s'agit d'aller dans ces eaux-là.
Oui, alors La société, c'est une association, en fait, dont je fais partie, Société d'archéologie et de mémoire maritime. Donc, dès que j'ai repéré ces anomalies géologiques, j'en ai parlé à mes collègues plongeurs, qui ont une grande expérience de cette région, du fait qu'ils ont plusieurs dizaines d'années d'expérience pour les recherches et les plongées sur épave. Donc, c'est un environnement que je qualifie d'extrême, puisqu'on se trouve sur la chaussée de Sein, donc très exposé à la houle, très exposé aux tempêtes. Comme il s'agit d'un haut fond, on a beaucoup de courant, et les périodes favorables à la plongée sont les périodes de mortes eaux et la période sans courant dure à peu près 20 minutes à une demi-heure, donc ce qui fait que les créneaux de plongée étaient extrêmement restreints à nettement moins d'une heure à chaque fois.
C'est très impressionnant quand on regarde les vidéos effectivement de ces plongeurs, d'aller voir lutter très concrètement contre le courant, alors même que c'est le moment où c'est le plus calme.
Voilà, et il faut aussi rajouter que s'agissant de fonds qui sont à peu près entre moins de 20 mètres de profondeur, on a une très forte couverture d'algues et les premières plongées réalisées en été n'ont pas permis de bien observer la structure. On a pu confirmer que ce n'était pas naturel, mais la couverture d'algues fait que les collègues de la SAM, là, de toute l'équipe coordonnée par Jean-Michel Corlet, qui est celui qui a peut-être le plus d'expérience de plongée dans ces zones-là, a décidé de faire ce qu'il n'avait pratiquement jamais fait, de plonger pendant les mois d'hiver. On a fait des premières plongées fin avril et début mars l'année suivante. Et là, la grande chance, c'est qu'il n'y avait plus du tout de couverture algale enlevée par les tempêtes. Il s'agissait aussi d'algues annuelles. Donc la structure était sur 120 mètres, totalement dégagée, donc complètement minérale, ce qui est très bien pour un géologue. Et là, on a eu la grosse surprise, enfin y compris pour moi en géologie, de voir une structure linéaire, 120 mètres de long, mais le point vraiment étonnant, c'était toutes ces, ce que j'appelle des monolithes, on en a plus de 60 monolithes et des grandes dalles, encore verticales, dressées au sommet de cette structure, enfin, je parle de la structure la plus importante. Autour, on a des structures plus petites, mais dont l'architecture est un petit peu la même aussi souvent, et d'où la discussion sur le rôle qu'ont pu jouer ces structures dans cet environnement extrêmement exposé aux tempêtes.
Combien d'autres structures sont présentes, et est-ce que finalement on peut déjà estimer que ça constitue une forme de réseau, ou en tout cas que ces structures-là sont en relation les unes avec les autres? Nous avons perdu Yves Fouquet.
Alors peut-être sur une zone à peu près de moins. On en a 11 structures en forme de barrage, en fait. Il y en a qui sont plus petites, hein, qui font moins d'un mètre de haut, quelques mètres de large. Donc là, on est plus dans les structures assez bien connues sur le littoral, qui sont des structures de piégeage de poissons, ce qu'on appelle des barrages à poissons. Le côté étonnant de la nôtre, c'est qu'on a 1,70 m de haut, sans compter les monolithes qui peuvent faire un peu plus de 1,50 m de haut, qui viennent se rajouter et renforcer à la fois la structure du mur et rehausser le mur également. Donc c'était une dimension, une architecture qui était également anormale de mon point de vue. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché de mes collègues de l'université, à la fois pour discuter les âges et pour bien discuter les implications archéologiques de cette découverte.
Eh bien, vous faites une passe décisive, Yves Fouquet, à Pierre Stéphan, vos collègues archéologues, vos collègues géomorphologues. Pierre Stéphan, quand vous apprenez que cette découverte a été réalisée en mer d'Iroise, est-ce que vous pensez tout de suite aux autres structures anthropiques qui ont été découvertes dans cette même mer, dans l'archipel par exemple de Molène? Quels autres exemples on a de ce type de structure immergée?
Oui, alors on a beaucoup d'exemples hein, sur le pourtour de la façade atlantique, enfin manche atlantique française. Si on se limite au seul département du Finistère, on a plus de 300 barrages de pêcherie. Bon, ce qui fait vraiment l'originalité de celle de l'île de Sein, celle découverte par Yves, c'est essentiellement leur profondeur très très importante. Et des structures de cette situées à de telles profondeurs, on en retrouve une seule, située non loin de l'île de Sein, un tout petit peu plus au nord, dans l'archipel de Molène. Donc c'est en quelque sorte sa jumelle. Alors malheureusement, dans ce secteur-là, les conditions de plongée sont tout aussi risquées, dangereuses que sur l'île de Sein. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas pu faire d'observation, enfin, en tout cas, on a tenté des plongées, mais on n'a pas pu faire d'observation détaillée de la structure. Donc là, ces derniers temps, on mise beaucoup sur les travaux des collègues de l'École navale de Brest, avec qui on travaille et qui testent tout un tas de prototypes de drones sous-marins, notamment pour recueillir plus d'observations et essayer de sonder un peu l'architecture de ces murs.
Vous pouvez nous rappeler, Pierre-Stéphane, la hauteur de ces murs, puisque vous parlez du fait que voilà, c'était des dimensions un peu hors du commun. Rappelez-nous un peu ces dimensions. On a parlé de 120 mètres de long pour la structure principale, de 20 mètres de large en sa base, mais parlez-nous de la hauteur.
Alors, la hauteur est assez variable. Ces murs ont parfois été... on parle de murs, mais en fait, il faudrait plutôt parler aujourd'hui d'amas de pierres, puisque une partie, en tout cas d'entre eux, ont été démantelés, certainement par les vagues. Mais il en reste encore une bonne partie des dalles verticales plantées de champs, ou, comme Yves l'a rappelé, des monolithes. La hauteur est assez variable. Elle est difficile à estimer, puisque en fait, ces murs sont étalés, mais on peut dire que sur les 20 mètres de large, on a une dénivellation qui est de l'ordre d'un mètre à 1,50 mètre en moyenne.
Quand on parle donc de cette découverte-là, il faut, pour bien comprendre son importance, chercher tout de suite à la dater. Pierre-Stéphane, c'est pas simple là non plus. Quelle méthode finalement vous utilisez vous en tant que géomorphologue pour aller chercher à déterminer l'âge de ces structures-là?
Alors ouais, c'est effectivement très compliqué de les dater directement, parce que pour cela, il faudrait effectivement les sonder l'intérieur de ces amas de pierres, enlever les pierres les unes après les autres, sous l'eau, en plongée, enfin. Essayer d'y retrouver des restes organiques qu'on pourrait dater par le carbone 14. Donc en l'absence de ces possibilités-là, en fait, on trouve des moyens un peu détournés. Et un de ces moyens, c'est d'utiliser notamment nos connaissances sur les anciennes positions du niveau marin. Et pour comprendre un petit peu comment on s'y prend, je pense qu'il faut qu'on commence par rappeler un peu comment fonctionne un barrage de pêche sur l'estran. Mmh. Donc le principe est assez simple, hein, il est universel. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'envie de construire un muret de cette façon-là, vous commencerez par regarder assez attentivement comment la marée monte, comment elle descend sur une zone un peu rocheuse. Et vous finirez certainement par trouver l'endroit idéal dans cette zone de balancement des marées. Vous construirez votre mur pas trop haut, parce que sinon il sera pas assez souvent submergé, et donc le poisson ne sera pas piégé à l'intérieur de votre mur. Et vous le construirez non plus pas trop bas, parce que sinon vous pourrez pas y aller régulièrement pêcher votre poisson. Donc finalement vous trouverez cette position idéale qui est en équilibre avec les variations quotidiennes du niveau de la mer liées à la marée, et en équilibre avec la position actuelle du niveau marin. Mais ça, c'est valable pour aujourd'hui. Alors quand on se plonge dans le passé, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. Par exemple, il y a 7000 ans, enfin au tout début du néolithique, le niveau de la mer était 7-8 mètres sous le niveau actuel. Donc les femmes et les hommes du néolithique, lorsqu'ils ont cherché à construire leurs murs, ils les ont construits 7 ou 8 mètres sous la position idéale d'aujourd'hui. Donc maintenant, pour essayer de dater précisément les structures, il faut avoir une bonne connaissance de la remontée du niveau marin, enfin en tout cas des anciennes positions du niveau marin dans le passé. Et en fait, on a fait un gros travail là ces dernières années sur cette question-là. Et donc, on a pu retracer des courbes de remontée du niveau marin avec une précision de plus ou moins un mètre. Et donc, grâce à ces courbes, c'est des espèces d'abacs, on peut dater. Alors, c'est toujours un peu frustrant pour les archéologues, parce qu'on donne des fourchettes qui sont de plusieurs siècles, mais on donne en tout cas une estimation de l'âge de ces structures par cette méthode-là.
Donc là, on est finalement il y a 7000 ans, grâce à cette datation-là. Quelles pierres ont été utilisées? Est-ce qu'on sait, parce que du coup, ça a été construit à pied sec en période de marée basse il y a 7000 ans. À l'époque, on était à 2 km de la pointe actuelle de l'île de Sein. Quelles sont les pierres qui ont été utilisées? Est-ce qu'on a repéré des traces de carrière, par exemple? Parce qu'on imagine qu'il a fallu avoir pas mal de bras pour construire ces structures assez monumentales.
Oui, alors donc c'est ce qu'on peut effectivement penser, que ça a dû mobiliser beaucoup de personnes. Alors, les observations de terrain ont montré qu'à proximité, en tout cas, de la structure la plus imposante, celle qui montre toute une série de monolithes alignés, on a effectivement, en tout cas, une zone, un écueil rocheux qui semble avoir fait l'objet d'extraction de pierres. Donc, c'est d'ailleurs une zone qu'on appelle la chambre carrée, enfin qui est appelée comme ça par les Sénans. Et donc qui aurait pu effectivement livrer les pierres de construction pour édifier ce mur de pêcherie.
Ça nous renvoie finalement à ces sociétés littorales dont vous êtes spécialiste, Ivan Payet. J'évoquais à l'instant le fait qu'il ait sans doute fallu pas mal de bras, pas mal de monde, pas mal de temps pour construire ce type de structure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de l'organisation que ça a requis, cette construction-là? On imagine que à cette période-là, il y a 7000 ans, il n'y avait pas forcément autant de monde que ça à présent, et puis autant de monde sédentaire surtout.
Ouais, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est assez compliqué. En fait, c'est avec la datation, la fourchette chronologique fournie par Pierre. En fait, il y a deux possibilités. Soit on choisit la fourchette haute, soit la fourchette basse. Et dans un cas, on se trouve au Mésolithique avec des chasseurs-cueilleurs, et dans l'autre cas, avec des premiers néolithiques, les premiers colons néolithiques qui arrivent depuis le bassin parisien. Pour ce qu'on en connaît actuellement, en tout cas, du mode de vie des premiers néolithiques, ils sont très vite attirés par le littoral et par les îles, puisqu'ils s'installent très vite sur Jersey, et on les retrouve à Belle-Île ou à différents endroits, sur l'île de Groix, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Ils viennent bien sur ces terres qui commencent à s'insulariser ou qui sont déjà insularisées. Mais en revanche, on n'a aucune trace de l'exploitation du milieu marin par ces gens-là. Donc, si on se base sur ces données-là, on aurait tendance à les disqualifier un peu d'office, et enfin surtout si on pense à l'hypothèse barrage de pêcherie, et auquel cas on prendrait plutôt la fourchette haute et on se tournerait vers le Mésolithique, ce qui serait pas non plus aberrant, sachant que notamment en Irlande, les collègues ont mis en évidence des barrages de pêcherie bien datés, eux, parce que présence de bois conservé au Mésolithique.
Donc cette période du Mésolithique, qu'on comprenne bien, un peu les modes de vie des sociétés qui habitaient sur ces littoraux, c'était des modes de vie peut-être plus tournés, comme vous l'évoquiez, vers la mer, et peut-être moins que les modes de vie tournés plus vers l'exploitation des ressources agricoles apportées par les néolithiques.
Ouais, c'est ça. En fait, toutes les données qu'on a pour le Mésolithique sur le nord-est atlantique, montrent bien que on a des amas coquillés et puis donc du coup de l'exploitation des ressources marines, qu'il s'agisse des poissons ou des coquillages et des crustacés. Donc en fait, on peut très bien imaginer sur l'île de Sein, qui est bien plus grande à l'époque, une communauté assez nombreuse pour ériger ce type de barrage.
Mais pour autant, on n'a pas retrouvé de traces de ces populations-là. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettraient de comprendre un petit peu la présence humaine et la présence d'une société déjà établie sur l'île de Sein à cette époque?
Et non, malheureusement, pour l'instant, c'est le grand manque. Mais comme le disait Pierre, il y a une grande partie de l'île de Sein de l'époque qui a disparu sous les eaux. Mmh. Donc, c'est pas non plus complètement étonnant qu'on n'ait pas les amas coquillés et les habitats qui vont avec pour ces périodes. On en a quelques exemplaires conservés sur le littoral sud-armoricain, à Bégandarchen, à Plomeur, à Bégarville, Théviec et Dick, dans le Morbihan aussi. Ça fait que 4 amas coquillés pour des centaines de sites mésolithiques qui ont été repérés soit en fouille, soit en prospection de surface. Donc, vous voyez bien que finalement, on a vraiment une véritable lacune, et c'est tout à fait logique finalement, puisque c'est des sites qui se trouvent en bordure de mer, qui sont implantés non loin de la mer, donc ils ont été érodés, quoi.
On a parlé, on a évoqué bien sûr la fonction de ce mur principal qui serait, selon les hypothèses, un barrage de pêcherie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'importance, les arguments en présence pour consolider cette hypothèse-là du barrage de pêcherie? Est-ce qu'on a d'autres exemples dans le voisinage? Est-ce que c'est finalement l'hypothèse la plus importante à retenir?
C'est l'hypothèse la plus plausible de mon point de vue et pour Pierre aussi. Après, plausible parce que voilà, on sait qu'il y a d'autres barrages de pêcherie à cette période-là au Mésolithique, donc c'est pas un scoop. On sait aussi que les chasseurs-cueilleurs en différents endroits du globe. Que ça soit, bon, j'ai parlé de l'Irlande tout à l'heure avec des sites contemporains, mais autrement, la fabrication de grands pièges pour chasser, c'est également quelque chose que l'on connaît assez bien, que ce soit chez les Inuits, des pièges avec des grandes pierres dressées également pour canaliser en fait les caribous vers des endroits où on va pouvoir les abattre assez facilement ou bien alors dans le désert, les desert kites qui ont été mis en évidence aussi, et de la même manière les gazelles sont canalisées vers des systèmes de nasses. En fait, c'est le même principe que les pêcheries. On piège les animaux comme on piège les poissons. Donc oui, ça semble en tout cas pour l'instant la meilleure hypothèse, mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à chercher. Éventuellement, il y a peut-être d'autres possibilités. Et pourquoi pas se tourner vers le mégalithisme.
Alors ça, c'est une question qui se pose, parce qu'il y en a qui... Enfin, voilà, Jean-Michel Kerroulé ou d'autres plongeurs ont dit c'est Karnak sous la mer quand ils ont plongé, qu'ils ont vu ces mégalithes qui se dressaient sur ce mur monumental. Karnak, c'est à 160 km, si je dis pas trop de bêtises, de l'île de Sein, en gros, en très très gros. Mais des mégalithes, il y en a d'autres plus proches. Est-ce qu'on fait un parallèle quand on est archéologue comme vous et qu'on étudie les sociétés littorales dans cette région-là, immédiatement, entre ces monolithes posés sur ces murs et le mégalithisme, ou bien est-ce qu'il faut garder un peu de prudence là ?
Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Disons que, en effet, le fait de voir des monolithes plantés, ça peut évoquer le mégalithisme et des lignes de pierres dressées, comme on en connaît tant à Karnak, mais il y en a également de nombreuses en presqu'île de Crozon, beaucoup plus proches, ou même quelques-unes aussi dans le Cap Sizun, même si certaines ont été détruites plus récemment, mais en tout cas, il en existait. Donc oui, c'est pas un problème. On sait que ça existe. Après, le mégalithisme, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a attribué essentiellement au néolithique. Et ce, j'ai envie de dire, malgré le fait qu'on ait quand même quelques datations qui nous posent problème, puisqu'en fait, à chaque coup que l'on fouille, les dernières années, les derniers gros sites qui ont été fouillés de champs de menhir, en fait, on livrait dans des charbons de bois dans les calages de ces stèles. Et il y a toujours une ou deux dates qui tombent dans le mésolithique, ou en tout cas dans la toute fin du mésolithique. Et donc finalement, on a peut-être écarté un peu d'un revers de main un peu trop facile ces datations. Et il faudra peut-être revoir à l'avenir si finalement il n'y a pas des prémices ou même carrément des premières pierres dressées que l'on peut attribuer à ces chasseurs, cueilleurs, pêcheurs de la fin du Mésolithique.
Puisqu'on parle de datation, je me retourne vers vous, Pierre Stéphan. Vous travaillez en ce moment même avec un chercheur qui est en train d'écrire sa thèse à l'amélioration de ces techniques de datation, de ces structures. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et comment elles vont pouvoir nous éclairer d'un autre regard, finalement, sous un autre jour, sur ces structures-là ?
Oui, alors effectivement, on co-encadre actuellement une thèse sur ce sujet avec un collègue de l'Université de Rennes, Guillaume Guérin. La technique qu'on développe actuellement est appelée la luminescence de surface de roche. Donc c'est une technique qui permet de dater la dernière exposition à la lumière de blocs rocheux. Donc ça permet de dater notamment des monuments en pierre, et cela en l'absence de vestiges organiques. Alors, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est de regarder les grains de quartz et de feldspath dans la roche. Ces minéraux sont assez particuliers parce qu'ils se comportent comme des chronomètres qui se réinitialisent dès qu'ils sont exposés à la lumière. Donc, lorsqu'ils sont dans l'obscurité, en revanche, ils ont la capacité d'accumuler, ils vont accumuler de l'énergie sous l'effet de la radioactivité naturelle. Et à l'inverse, ils vont la libérer sous la forme d'une luminescence quand ils sont exposés à la lumière. Donc via cette méthode, on espère pouvoir affiner la datation des structures submergées, notamment, Et notamment, justement, répondre à cette question, est-ce qu'on a affaire à des structures qui datent plutôt de ces sociétés mésolithiques, enfin de la fin du mésolithique, ou plutôt à ces premiers éleveurs et cultivateurs du néolithique. Donc, je trouve que si on arrivait déjà à répondre à cette question, alors l'objectif est plus large que ça, puisque à terme, si on valide... l'idée, c'est aussi de valider notre approche par les anciens niveaux marins. Et dès lors qu'on la validera, on pourra, de manière beaucoup plus extensive, dater finalement l'ensemble des barrages de pêcherie, toute époque confondue, qu'on retrouve par centaines le long des côtes d'Atlantique et de Manche.
Yvan Paillet, est-ce qu'on peut aussi envisager de réaliser des prélèvements ou des sondages dans les structures elles-mêmes? Est-ce qu'on pourrait réaliser ce genre de prélèvements et quelles réponses on pourrait avoir?
Je pense que oui, à l'avenir, il est évident que là, on a un corpus qui est énorme, qui est vraiment, il y a de quoi jouer. Je pense que Arthur Jumeaucourt, dans le cadre de sa thèse, va bien l'exploiter et va certainement faire progresser les datations. Maintenant, c'est quand même des sites qu'on connaît assez mal, même d'un point de vue architecture râle. Et donc, on le voit bien avec l'exemple de Toularfot, qui peuvent révéler des sacrées surprises avec justement cet aménagement de pierres dressées au-dessus d'un mur, ce qu'on n'avait encore jamais vu dans les quelques barrages de pêcherie qui avaient été relativement bien observés jusqu'à présent. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes manière de construire un barrage de pêcherie, et je pense que en effet là c'est vraiment les techniques de l'archéologie qui va falloir mobiliser, donc réaliser des relevés très précis, des sondages quand on le peut. Ça sera pas toujours possible du fait des courants, ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a des zones un peu plus calmes, donc il faut cibler les pêcheries peut-être dans des secteurs un peu plus calmes et essayer de réaliser des sondages quand on le peut pour avoir des découpes stratigraphiques, pour voir comment sont construites, érigées ces barrages, voir leur diversité, comprendre l'origine des pierres qui sont extraites, comprendre aussi, parce qu'en fait c'est historiquement, elles sont bien documentées, on sait que c'est des monuments qui vont avoir une durée de vie assez longue, qui vont être rechappés à plusieurs reprises. Donc ça aussi, on peut le voir à travers l'étude architecturale. Donc il y a tous ces chantiers à développer pour l'avenir.
Et pour conclure, Yvan Paillet, on a beaucoup parlé de cette cité mythique de 10. Est-ce qu'on peut trouver des échos entre ce genre de vestiges et la fabrication d'une légende? Expliquez-nous un peu le lien en quelques mots qu'on peut établir entre ces structures et cette légende.
Des murs de cette taille, de toute façon, ils ont mis longtemps avant d'être complètement recouverts par la mer, et donc il y a des générations et des générations d'hommes qui les ont vus émerger, et donc on peut imaginer que dans la culture populaire, ça soit resté en mémoire. À titre d'exemple, Pierre tout à l'heure citait un autre système de barrage de pêcherie très très bas, qui a plus de 7 mètres dans l'archipel de Molène de profondeur, et donc qui date aussi de cette même période, globalement du mésolithique, et en fait il s'appelle les Bulvenues. Et Bulvenue, en fait, en breton, ça veut dire Pulvenue. Donc, en fait, c'est les pierres dressées. Et comment peut-on appeler ça les pierres dressées s'il n'y a pas quelque part la mémoire de ces pierres dressées? Là, c'est aussi tout un travail qu'on réalise à l'Université de Brest avec un collègue qui est ethnolinguiste et qui s'appelle Daniel Lebris, qui travaille sur la toponymie de ces barrages de pêcherie.
Et cette mémoire, bien sûr, on pourrait en faire une émission, pourquoi pas une prochaine émission. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Yvan Paillet, Pierre Stéphan et Fouquet, d'être venus nous raconter cette belle découverte au large de l'île de Sein. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, à Étienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Anthony Thomasson, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.